Les Amériques et d'Haïti, présenté par Adrien Delgrange. Adrien, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. De Port-au-Prince à la Malbaie, de Pointe-à-Pitre à Buenos Aires, bienvenue à tous dans votre journal des Amériques. À la une de ce vendredi 8 juin, le G7 au Guatemala, rarement un sommet qui rassemble les 7 pays les plus riches au monde, n'aura débuté dans un climat aussi tendu. Le Premier ministre canadien tente de calmer les esprits à quelques heures du début de cette réunion. Et puis pendant ce temps-là, des manifestants anti-G7 se sont déjà rassemblés à Québec. Dans la revue de presse des Amériques de Carlota Morteo, nous parlerons notamment de l'Argentine. L'Argentine qui emprunte 50 milliards de dollars américains au FMI pour sortir le pays de la crise. C'est ce que dit le ministre argentin de l'économie. Et puis dans ce journal, nous accueillerons le lauréat du prix Philippe Chaffanjon pour son web documentaire intitulé « Haïti, cri des oubliés de l'enfer carcéral ». Davidson Saint-Fort, bonjour.
Bonjour Adrien.
Extrait de votre documentaire.
Je me sens humilié, moi. Je ne suis plus un homme, je suis une bête. Nous croyons que nous étions ici pour subir une correction. Mais avec ce mode de traitement, ils nous agacent pour qu'on devienne pire qu'avant.
A tout de suite, Davidson Saint-Fort, pour nous parler de votre travail. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous, nous sommes 20 minutes ensemble. Rarement un sommet du G7 n'aura débuté dans un climat aussi dégradé. Le Premier ministre canadien reçoit les dirigeants américains, britanniques, français, allemands, italiens et japonais dans la petite ville québécoise de la Malbaie, située au bord du fleuve Saint-Laurent. Un cadre alors plutôt agréable, mais une atmosphère tendue sur fond de menaces de guerre commerciale américaine. À quelques heures du début de ce sommet, Justin Trudeau, le Premier ministre, est revenu sur l'importance de cet événement.
C'est certain que chacun arrive avec sa perspective et ses intérêts, mais justement, en se rassemblant à tous les ans avec le G7, ça nous permet de remettre un petit peu nos perspectives de façon un peu plus alignée et de chercher toujours à mieux travailler ensemble pour nos propres citoyens, mais bien pour le monde entier aussi.
Alors, travailler pour nos propres citoyens et le monde entier, une idée que ne partagent pas forcément des manifestants déjà réunis dans la ville de Québec. Hier, un rassemblement s'est déroulé sous haute surveillance, comme nous le raconte Pascal Guéricola.
Des drones, des hélicoptères, des policiers armés d'appareils photo au bout de perche ont suivi pas à pas les quelques centaines de manifestants qui ont défilé dans les rues de Québec pour dénoncer la tenue du G7. La présence sur le trottoir de policiers lourdement casqués et protégés a dérangé cette manifestante.
Avant, les anti-émeutes étaient déployés à partir du moment où il se passait quelque chose. Et là, maintenant, les anti-émeutes sont là dès le départ, pendant que la fanfare joue, les gens dansent, les enfants lancent des pinottes. C'est vraiment les gros casqués armés qui sont là pour nous faire peur. C'est pas notre ville, là. On n'est plus chez nous.
De nombreux manifestants, comme ce jeune homme, masquaient leur visage, histoire de ne pas se faire identifier par la police.
Certaines personnes se rassemblent pour discuter sous le couvert des intérêts économiques, de l'avenir du monde, sans parler, sans consulter le monde. Puis moi, je trouve que c'est une baveuse.
D'autres rassemblements vont avoir lieu aujourd'hui et demain, à l'appel notamment des syndicats et de plusieurs groupes environnementaux. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et pour la revue de presse des Amériques, Carlota Morteo nous a rejoint. Bonjour Carlota.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
La presse américaine qui met le doigt sur les risques que cela fait peser sur l'économie des États-Unis.
Et sur les emplois manufacturiers en particulier, ceux-là même que Donald Trump dit vouloir protéger. Le New York Times révèle des courriers, des mails émanant de la Chambre de commerce américaine, de l'Association nationale des entreprises manufacturières et d'autres lobbies industriels. Et dans ces documents, on découvre que l'administration ne les consulte pas et c'est par voie de presse que ces entreprises ou ces organismes ont appris les détails des mesures envisagées dans la renégociation de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Tous se plaignent également que le cabinet en charge des négociations commerciales manquerait cruellement de personnel, qu'il serait totalement débordé et soumettrait donc des propositions fumeuses.
Alors le Washington Post, lui, s'intéresse à l'impact de ces taxes sur l'acier et l'aluminium. Concernant l'économie américaine, le journal estime qu'elles vont faire plus de mal aux États-Unis qu'aux pays visés. Dites-nous pourquoi.
Eh bien, c'est l'éditorialiste Catherine Rambel qui l'explique. Premièrement, parce que les industries américaines d'acier ne produisent pas assez pour alimenter la demande nationale. Deuxièmement, parce que les prix de l'acier américain ont doublé cette année par rapport aux prix européens ou chinois. Troisièmement, enfin, et c'est ce qui fait dire à l'éditorialiste que la volonté de Donald Trump d'imposer une taxe globale est complètement, je cite, stupide, c'est qu'en face, les mesures de représailles envisagées sont, elles, stratégiquement ciblées.
Alors, quelques exemples, Carlotta.
Eh bien, par exemple, l'Union européenne qui prévoit de faire du cas par cas. Seuls les produits américains qu'elle peut facilement remplacer subiront une hausse des tarifs douaniers. Et ce n'est pas tout. Selon l'éditorialiste, l'Union européenne a également mis dans les listes de produits politiques, des produits politiquement symboliques, le bourbon du Kentucky, les motos fabriquées dans le Wisconsin, ou encore les machines à laver produites dans l'Ohio, autrement dit des produits originaires des États qui ont massivement voté pour Donald Trump.
Alors parlons à présent de l'Argentine avec vous. Le retour du protectionnisme américain qui met en crise les instances multilatérales semble bien loin des préoccupations en Argentine. Le FMI, le Fonds monétaire international, lui a accordé un prêt de 50 milliards de dollars américains, le plus important de son histoire.
C'est une bonne nouvelle, admet le journal de droite libéral Clarín, mais qui ajoute ce serait une grave erreur que le président et ses ministres se montrent triomphalistes, car les efforts sont loin d'être terminés. Et le journal détaille les contreparties qui ont été demandées par le FMI. Réduction très rapide du déficit fiscal, interdiction à la Banque centrale de transférer des liquidités au Trésor et mise en place de taux d'inflation, je cite, réalistes. Bref, une sévère cure d'austérité.
Alors, qu'en dit la presse d'opposition ?
Eh bien, l'éditorialiste de Página 2 est très pessimiste quant à la mise en œuvre du plan de rigueur et de ce qui va en découler. Le programme est, je cite, trop ambitieux. Les retombées seront donc brutales. Pour le journal, ce prêt est en fait une bouée de plomb.
Parlons Nicaragua à présent. On suit toujours avec attention ce qui se passe dans ce pays. Hier, le président Ortega a rencontré les évêques qui lui ont présenté une proposition pour sortir le pays de cette crise politique et sociale en cours. Mais le président Carlotta n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie.
Non, ce sont les évêques qui ont indiqué qu'ils lui ont proposé un plan pour démocratiser le pays, que le président leur a demandé 2 jours de réflexion et que l'Église souhaiterait une réponse par écrit.
Et malgré cela, bien une reprise des discussions, visiblement, les violences continuent.
El Confidencial raconte que des groupes armés ont attaqué mercredi soir de jeunes manifestants à Chinandega. 3 jeunes entre 18 et 22 ans ont été tués par balle. La pression internationale sur le gouvernement Ortega, elle, s'est accentuée. Washington a annoncé des sanctions diplomatiques pour violation des droits de l'homme contre plusieurs responsables nicaraguayens.
Carlotta Morteo pour la revue de presse des Amériques. Un mot de ce volcan au Guatemala où le bilan s'est alourdi. 109 morts, recherches suspendues. Les recherches des disparus de l'éruption du volcan El Fuego ont été suspendues hier pour des raisons de sécurité. Et face aux critiques soulevées par ce lourd bilan, le parquet guatémaltèque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu des négligences de la part des forces de sécurité pour ne pas avoir ordonné l'évacuation à temps. Nous accueillons à présent dans les studios d'RFI à Paris le lauréat du prix Philippe Chaffanjon pour son web documentaire intitulé « Haïti, cri des oubliés de l'enfer carcéral ».
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. Paris, 89 FM.
Le matin, on nous donne rarement quelque chose à manger. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons eu qu'un seul repas. Des fois, ils nous cuisinent des légumes avariés et on est bien obligé de les manger. Nous sommes 60 dans une cellule faite pour 12 prisonniers. Pour faire nos besoins, nous avons recours aux sachets en plastique que nous jetons ensuite sur la cour. Nous sommes traités comme des esclaves, comme des bêtes. Un chien a plus de valeur que nous autres prisonniers.
David Sansinfort, bonjour et bienvenue.
Merci Adrien, bonjour.
Vous êtes journaliste haïtien pour la RTC, la Radio-Télévision Caraïbe. Vous avez remporté hier soir le prix 2018 Philippe Chaffanjon. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la Radio à Paris. Et c'est donc, vous l'aurez compris, un extrait de votre documentaire que nous venons d'entendre, intitulé « Haïti, cri des oubliés de l'enfer carcéral ». Dites-nous d'abord comment a commencé votre travail. C'est le courrier d'un détenu que vous avez d'abord reçu ?
Oui, absolument. Donc les prisonniers nous ont envoyé, on va dire, les détenus. Ils nous ont envoyé des lettres à notre collectif Reportar, des lettres pour expliquer justement leur situation et ce qu'ils sont en train de faire de l'intérieur de la prison pour essayer de s'en sortir. Donc ces lettres-là, dans lesquelles on a pu relever quelques extraits, c'est justement à partir de ces lettres-là qu'on a pu tirer les titres. C'est des personnes qui se sentent oubliées et qui expliquent justement qu'ils sont en enfer et peut-être qu'ils n'ont pas droit d'y être. Puisqu'ils sont que des accusés et donc il veut se faire entendre et il crie à travers sa lettre. C'est ce qu'on voulait transmettre justement.
Avec cet extrait, le glaive de la justice haïtienne est comme un train qui déraille en direction d'une foule compacte. Qu'avez-vous observé lorsque vous êtes intéressé au milieu carcéral en Haïti?
Un désastre, on va dire. C'est 4200 personnes. En octobre 2017, lorsqu'on rédigeait ce reportage justement, 4200 personnes dans une prison qui a été construite à la base pour 800 à 1000 personnes. Donc vous voyez, c'est le triple du chiffre acceptable. Et donc cette surpopulation carcérale provoque, si vous voulez, ce qu'on peut appeler une situation catastrophique, une surpopulation carcérale énorme, la promiscuité. Et vous avez entendu dans la voix des prisonniers qui expliquent comment ils sont traités, comment ils mangent, et bien sûr, il faut faire aussi le lien avec les centaines de prisonniers qui sont morts tous les ans. Cette promiscuité, absence de soins de santé, absence de nourriture, justement.
Et vous mettez aussi l'accent sur cette question de la détention provisoire prolongée.
Mais bien sûr, c'est ce qui provoque tout ça. Quand vous avez au niveau, par exemple, du parquet, où les dossiers sont arrivés, et puis puisqu'il y a, selon les commissaires, assez de charges pour envoyer ça au tribunal de première instance. Et donc, ces dossiers-là, on les garde, mais on envoie la personne au pénitencier national comme détenue en attendant son jugement. Et donc, puisqu'on envoie des dossiers qui sont traités que tardivement, et donc ça augmente le nombre de personnes incarcérées et ça provoque cette surpopulation carcérale, justement.
Dans votre web documentaire, vous avez posé la question à Jocelyne Colas-Noël, la responsable de la Commission nationale justice et paix. Que faire pour stopper le flux de la détention préventive prolongée?
Mais c'est à l'État de nommer une quantité suffisante de juges d'instruction pour permettre la mise en état des dossiers en temps raisonnable afin que les jugements puissent être prononcés. Sinon, le problème ne sera pas résolu. Il faut une révision des cadres légaux permettant le traitement de ces dossiers par les tribunaux de paix afin de réduire sérieusement le problème de la détention préventive prolongée.
Ça t'a capable réduire la question de détention préventive prolongée.
Alors, Davidson Saint-Fort, dites-nous comment vous avez fait pour réaliser ce reportage et cette enquête et avez-vous subi quelques pressions?
On va dire que ça n'a pas été facile, mais ça l'a été aussi à quelques niveaux puisque c'est un travail de groupe. On avait quelques éléments à la base et la lettre qu'on a mentionnée tout à l'heure et on s'est dit à partir de ces éléments-là, on va essayer de constituer un travail plus compact en recoupant d'autres informations. Mais la plus grande difficulté en Haïti lorsqu'on est journaliste et on veut mener des enquêtes approfondies, c'est l'accès à l'information. Donc il nous fallait trouver les bonnes personnes à interviewer, trouver les bons sons, trouver les bonnes réactions pour recouper tout cela et faire quelque chose de professionnel. Des menaces, non, pas vraiment, mais c'est toute la difficulté aussi du travail, comme je viens de le préciser. Il faut trouver la bonne information parce que c'est aussi un reportage réalisé dans le cadre d'un concours. Donc, il faut se dire qu'il faut trouver les bons éléments pour présenter ça de manière correcte et de pouvoir attirer l'attention du jury, justement un jury prestigieux comme on l'a eu presque tous les ans.
Alors, vous êtes en l'occurrence accompagné par Michel Joseph, lauréat 2016 du prix Chaffanjon. Et vous faites tous les deux partie d'un collectif de journalistes, Report Art, un collectif de journalistes indépendants. Dites-nous, Michel Joseph, pourquoi et dans quel but vous avez voulu monter ce collectif?
Alors, juste après avoir été lauréat en 2016 du prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia, je me suis dit qu'il fallait avancer, qu'il fallait continuer dans la production de qualité. Et il y a cette carence chez nous en Haïti, les jeunes journalistes notamment, donc se donnent pas toujours la peine de produire des reportages de qualité, faute de moyens, faute de temps et dans les rédactions. Alors je me suis dit qu'il fallait continuer dans cette cette voie. Alors avec mes collègues, ma femme qui est également journaliste chez La Louis-Joseph et qui fait partie du groupe, donc voilà, on a jugé bon de monter le collectif Reporter, cette structure donc qui encourage la production de qualité en matière de reportage.
Et quels sont là en ce moment les sujets de société que vous mettez en avant?
On a ce reportage-là sur la situation dans les prisons. Et en Haïti, la sexualité, par exemple, est un sujet tabou. On y penche un petit peu donc pour pouvoir éduquer la population sur ce point et des sujets de société, d'infrastructure, les inégalités sociales également, là où tout le monde n'y va pas. Nous, on essaie d'y aller et de manière profonde donc pour pouvoir attirer l'attention des gens.
Et puis un dernier mot, on le cite, Philippe Chaffonjon, vous avez donc reçu ce prix à Davidson Saint-Fort hier et puis vous, Michel Joseph, en 2016. En quelques mots, c'est un ancien homme de radio, que représente-t-il pour vous lorsque vous remportez un prix qui porte son nom?
Un modèle, un vrai modèle, comme c'est pour les journalistes en France, mais aussi en Haïti. Philippe Chaffonjon, il a des liens serrés avec notre pays. Il a été presque tout le temps lorsqu'il y a un événement important, mais aussi ce qui est intéressant, c'est les valeurs qu'il porte. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment il a travaillé, non seulement en tant que reporter, mais aussi en tant que responsable de France Bleu, d'être le plus proche possible de la population. C'est ça pour nous, la presse utile, c'est de créer le lien, de garder une certaine proximité avec le public, et je le dis dans mon discours hier soir, c'est quelqu'un qui a voulu toujours mettre le public, l'auditoire, au centre de la démarche journalistique, et ça, c'est important pour Haïti.
Merci, David Sanson. Fort d'être passé par le studio de Radio France Internationale, lauréat du prix Chaffonjon pour votre web documentaire intitulé « Haïti, cri des oubliés de l'enfer carcéral ». Le journal des Outre-mer, à présent nous sommes avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Adrien.
Et juste avant de prendre l'avion pour les Antilles, Nicolas Hulot a reçu hier à Paris le président du Conseil régional de la Guadeloupe.
Oui, en amont de la visite ministérielle de Nicolas Hulot et d'Annick Girardin ce week-end aux Antilles, les deux hommes ont évidemment abordé la question des algues sargasses, de leur stockage ou encore de leur transformation, comme à Sainte-Lucie où on en fait de l'engrais. Autant de thèmes qui seront discutés lors des 3 jours de visite ministérielle en Martinique et en Guadeloupe. Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, est au micro de Philippe Hernando.
Il fera la Guadeloupe, mais Capes, terre de Marie-Galante, terre de bas et la Désirade. Il fera les îles du Sud, il ira visiter les études en bateau et non en hélicoptère pour voir de visu et par la suite prendre des mesures concrètes. Alors, il ne m'a pas dévoilé un peu tout ce qu'il va dire en Guadeloupe, mais il m'a dit qu'il se rend compte que le gouvernement a vraiment pris conscience de la difficulté qui existe aux Antilles. Les solutions, c'est déjà nous accompagner, nous, région Guadeloupe, sur tout ce que nous avons mis en place avec l'État concernant les capteurs, les machines achetées, les aides apportées aux collectivités, aux PCI et aussi aux communes vraiment impactées telles que Capesterre de Marie-Galante où Madame Miraculeux s'est déjà beaucoup battue. Je lui ai même fait part un peu du travail que nous avons réalisé avec Monsieur Harry Durimel, qu'il connaît très bien, qui sera avec nous, et Madame aussi Augusta Duflo.
Et on reste avec les algues sargasses et toujours en Guadeloupe avec la délocalisation des examens du brevet pour les troisièmes du collège Eugène Issap. C'est l'une des pistes avancées hier par le rectorat après avoir reçu une délégation du collège en question. En cause toujours les désagréments dus aux sargasses, la directrice de cabinet du recteur, Nicole Dupuis.
Nous avons reçu ce matin une délégation de 5 personnels du collège Eugène Issap de Sainte-Anne. Il y avait à la fois des enseignants, mais aussi des représentants des agents. Sur la question de la pose des capteurs, qui est une démarche qui est en cours depuis le 19 avril dans l'Académie de la Guadeloupe pour l'ensemble des établissements où nous avons des remontées. Donc bien évidemment, il y a déjà des capteurs qui sont posés. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est que ça puisse être sur un temps un peu plus long, et qu'il y en ait un peu plus, et également que nous puissions, en tous les cas avec le chef d'établissement, communiquer et informer sur la pose de ces capteurs. Concernant la délocalisation qui est demandée pour les épreuves du DNB, bien évidemment, ils reconnaissent qu'il y a un principe aléatoire à ce phénomène des sargasses, mais le principe de précaution veut que, comme nous allons le faire pour le lycée de Petit-Bourg, que nous puissions mettre en place une délocalisation qui est envisagée pour les épreuves écrites, c'est-à-dire les 28 et 29, et pour les épreuves orales qui vont se tenir sur une journée.
Et les sargasses, on n'a pas fini d'en parler. Bon après-midi Adrien, bon week-end.
Merci Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines. C'est la fin de ce journal. Merci Victor Hull pour la mise en onde et puis toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce journal.